Dur ce texte. Quelle mouche a donc piqué ce matin notre pasteur ? L'Épître aux Romains est peut-être le livre le plus difficile de toute la Bible. Vous le savez, il existe plusieurs traductions de la Bible. Il y a notamment la traduction que l'on appelle la TOB, traduction écuménique de la Bible, qui a été traduite par des théologiens et des exégètes de toutes les traditions chrétiennes. Et quand ils se sont lancés ce défi, il y a maintenant plusieurs années, ils ont décidé de commencer par l'Épître aux Romains, en disant « si nous arrivons à traduire cette épître, c'est gagné ». Et nous avons aujourd'hui la Bible entre les mains, ils y sont arrivés. Vous le savez, la Bible est dense et elle est diverse. Et il est juste et bon de ne pas toujours s'attaquer aux mêmes textes, à ces textes qui vont dans le sens du bon poil. D'une autre, forcément, à ces textes qui nous font du bien. Et en cette année où nous célébrons les 500 ans de la Réforme, je souhaite parcourir l'Épître aux Romains, cette épître qui a été révélateur pour Martin Luther, qui a déclenché tout le mouvement des réformes protestantes. Le chrétien est libéré, il est juste par la foi que Dieu lui donne gratuitement. C'est ce que Martin Luther a trouvé dans cette épître. Il y a quelques dimanches, certains étaient peut-être là, vous vous en souvenez peut-être ou pas, j'ai démarré par le chapitre 1 de l'Épître aux Romains. Et voici donc le 2 ce matin. Martin Luther a découvert ici que le chrétien était libéré et il nous semble, en lisant ces versets, que nous sommes plutôt dans le contraire. Nous entendons ici « si tu fais mal, tu seras condamné, tu subiras la colère de Dieu ». Si tu fais le bien, tu seras sauvé. Nous sommes ici bien loin de la fameuse grâce de Dieu qui sauve gratuitement contre le salut par les œuvres que Martin Luther a combattu en son temps. Alors, est-ce vraiment ce que disent ces quelques versets du chapitre 2 ? Je vous relis le premier verset. Toi qui juges les autres, tu es donc sans excuse, peu importe qui tu es. Tu juges les autres, mais tu fais comme eux. En jugeant, c'est toi-même que tu condamnes. En fait, Paul démarre d'ailleurs. Il démarre de cette petite phrase « juger les autres ». Cette petite phrase me fait penser à un autre passage biblique. Je crois que c'est une parole de Jésus. Attendez, on ne voit pas la paille dans la poutre. Non, c'est pas ça. On voit la poutre dans l'œil. Non plus. Non. Ah, décidément, ce matin. Hein. Bon alors, je vous propose de reprendre la source pour remettre en ordre ce proverbe qui est devenu populaire, mais qui est en fait biblique au départ. Comme bien souvent, les idées neuves ne tombent pas du ciel. Et la société a repris une parole de Jésus pour en faire une vérité. Alors ça, c'est dans l'évangile de Matthieu. C'est au chapitre 7, au début du chapitre 7. Ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas. En effet, Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Et il vous donnera comme vous donnez aux autres. Tu regardes le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère, mais le tronc qui est dans ton œil, tu ne le remarques même pas. Pourquoi ? Comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever le petit morceau de paille que je vois dans ton œil », alors que toi, tu as un tronc d'arbre dans le tien ? Homme faux, enlève d'abord le tronc d'arbre qui est dans ton œil, et ensuite, tu verras assez clair pour enlever le petit morceau de paille qui est dans l'œil de ton frère. Voilà qui remet un petit peu en ordre et qui redresse les poutres. Et en effet, ce début du chapitre 2 de la lettre de Paul dit en fait la même chose, sans parler de poutres et de paille. Mais Paul, c'est vrai, ne met pas de gants pour le dire. Tu es donc inexcusable, toi qui juges. En jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Je vous invite à nous arrêter quelques instants sur ces paroles, pour se laisser interpeller, ou pas. D'abord, est-ce que cela me concerne ? Historiquement, dans ce texte, Paul s'adresse aux chrétiens de Rome. Nous sommes dans les premiers temps de l'Église du Christ, et l'ambiance générale est, comment dire, confuse. Il y a d'un côté les Juifs qui sont touchés par le message de Jésus et qui le reconnaissent comme le Messie attendu. Ils poursuivent l'observation de la loi juive qui rythme leur vie, leurs pratiques culinaires notamment. Et puis de l'autre côté, il y a les païens, les Grecs, selon l'appellation de Paul, qui n'ont connu, eux, que le paganisme et l'Empire et qui se convertissent au Dieu de Jésus-Christ. Eux qui n'observent pas la loi juive. Tout le monde pourrait vivre ensemble en bonne entente, dans un amour tout évangélique. Et ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est surprenant ? Il y a des jalousies, il y a des querelles. Les Juifs se sentent chez eux, eux qui ont plusieurs siècles de vie avec Dieu, qui sont le peuple élu et qui ont peut-être du mal à ouvrir le salut. Et de l'autre côté, les païens arrivent avec leurs gros sabots. Ils ne respectent pas les lois juives. Ils vont par exemple faire bombance de viande quand leurs frères et sœurs juifs feront carême. Alors bien évidemment, cela pose certains problèmes de fonctionnement dans la communauté. Les jalousies, les envies, les rancœurs s'accumulent, les uns accusant les autres d'être des gloutons et les autres reprochant aux uns leur attitude supérieure. C'est dans ce contexte difficile que Paul essaie de faire cesser le désordre. Alors il commence fort. Tu es inexcusable, toi qui juges, qui que tu sois, car en jugeant autrui, tu te condamnes toi-même, puisque tu en fais autant. Pour essayer de régler un problème particulier, Paul va pointer des vérités essentielles sur le péché. Souvenez-vous, dimanche dernier, nous avons parlé du péché comme cette notion biblique de vivre séparé, séparé de Dieu et séparé des autres. L'inexcusable, le péché pour Paul, c'est de juger les autres, de se séparer de nos frères et de nos sœurs, de mettre une barrière entre eux et nous. Pour Paul, c'est inexcusable pour trois raisons. Nous ne pouvons pas juger l'autre parce que nous ne valons pas mieux que lui. Paul parle ici de l'universalité du péché. En résumé, nous devons être consistants et reprendre pour nous ce proverbe. Avant de s'occuper de la paille dans l'œil de notre voisin, tentons d'abord de réduire la poutre qui bloque le nôtre. C'est aussi un grand principe de la réforme, nous sommes tous pécheurs. Et la deuxième, qui est une conséquence de la première, nous avons le choix entre la justice des hommes et celle de Dieu. Si nous nous permettons de juger les autres selon notre propre loi, alors attendons-nous à être évalués aussi selon la loi des autres. Nous sommes là dans ce que l'on appelle la loi du talion, vous savez, le donnant-donnant, que les enfants aiment beaucoup pratiquer. Il m'a tapé, alors je le tape. Mais les adultes aussi, hein. Ou alors, si nous nous mettons sous la loi de Dieu, ou plutôt que le mot « loi », sous sa parole, parce qu'en hébreu, ce mot que nous traduisons par « loi » se traduit en fait par « parole ». Et dans ce cas, si nous nous mettons sous la parole de Dieu, alors nous ne pouvons que nous écarter du jugement de l'autre. Ce qui nous amène à la troisième raison. Si nous nous permettons de juger à la place de Dieu, c'est sûrement que finalement nous n'avons pas assez confiance en lui. Qu'il nous semble que lui n'est pas capable de faire son travail et que c'est à nous de faire régner sa justice sur terre. Autrement dit, nous prenons la place de Dieu quand nous jugeons les autres. Nous méprisons alors son amour, sa grâce, sa bonté. C'est comme si nous doutions de sa générosité et que nous mettions en doute sa patience. Alors qu'à longueur de textes bibliques, dans le Premier Testament, dans le Nouveau Testament, il n'a de cesse de nous dire « Remets ta vie entre les mains de Dieu. Remets ta vie à la justice de Dieu. » Et là encore, ce mot « justice », il est tellement connoté. Nous en avons parlé au groupe de jeunes. Justice, tout de suite, nous pensons à la justice des hommes. Mais la justice de Dieu est tellement autre chose. Elle est grâce, elle est bonté, elle est patience. Alors on peut dire que la Bible n'a de cesse de nous demander de nous remettre entre la grâce de Dieu, entre sa parole. Vous connaissez ces quelques passages dans Ésaïe, par exemple. « Dites au juste que le bien lui arrivera. » Et dans les psaumes, tellement de fois. « Dieu restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. » L'Éternel Dieu est un soleil, il est un bouclier. L'Éternel ne refusera rien à ceux qui marchent dans sa parole. Et dans les évangiles, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Toute la Bible est semée de clignotants qui nous interpellent. Aie confiance en Dieu. Écoute-le, fais-lui confiance, remets-lui ta vie. Ne prends pas sa place. Marche simplement à ses côtés et il fera le reste. Nous allons entrer dans la saison d'hiver, chère aux Anécéens. C'est un peu comme en hiver sur les pistes de ski. Vous savez, quand il y a des panneaux jaunes à damiers, des filets ou des gyrophares qui nous alertent. Attention au risque d'avalanche. Mais il y a toujours des petits malins qui passent sous les filets. Vous en y étiez d'ailleurs peut-être. Écoutez ce témoignage d'un ami. Voilà qu'un jour, je me retrouve sur une crête, une plaque à vent où la neige s'amasse comme un trésor de risque. Et tout à coup, je sens le sol se dérober sous mes skis dans une amorce d'avalanche. Je courais à ma perte. Et dans ces conditions, il n'y a qu'une manœuvre à effectuer pour éviter de glisser. Cette manœuvre à ski s'appelle une conversion. Un changement radical de direction. Vous me voyez arriver, revenir à Paul, revenir aux Romains. Paul utilise ce mot conversion, métanoïa en grec, issu de la racine hébraïque shub, qui note un changement de direction. L'homme se détourne de son chemin et revient sur ses pas. Il s'était trompé. Et c'est Dieu qui l'appelle à changer de cap. C'est le verset 4 de notre passage. Dieu est très bon, très patient, il sait attendre. Est-ce que tu t'en moques? Cette bonté de Dieu te pousse à changer ta vie. Ne le sais-tu donc pas? Dans ce chapitre 2, finalement assez loin de l'enfermement, nous sommes invités à la conversion. Laisse-toi donc changer. Dieu t'y appelle. Il y a dans ce monde une possible vie nouvelle. Pour naître de nouveau par l'eau et l'esprit du baptême en Jésus-Christ, c'est une libération par grâce. Ne te laisse pas enfermer dans les chemins de la peur, du jugement. Reçois cette grâce qui sauve. Sous la justice de Dieu, c'est-à-dire sous sa grâce, sous sa paix, sous sa parole, tu rencontres le Père aimant. Le Dieu de Jésus-Christ qui combat le mal par le don de soi, qui combat la haine par l'amour. Il est celui seul qui te sauve et qui éclaire ta vie, aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles. Amen.